VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro, il est midi à Kinshasa, bonjour à tous. Des centaines de morts dans le massacre de Yumbi en RDC, au moins 890 personnes ont été tuées entre le 16 et le 18 décembre dans quatre villages du territoire de Yumbi, dans la province de Mai Ndombe, à plus de 300 km au nord de Kinshasa, rapporte dans un communiqué le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Ce bilan provient de ce qui semble avoir été des affrontements entre les communautés Banounou et Batende, d'après le Haut Commissariat qui cite des allégations de sources crédibles à l'appui de son bilan. La ville minière de Bakouma, dans le sud-est de la Centrafrique, connue pour ses importants gisements d'uranium, est attaquée par deux groupes armés. Fin décembre, a été reprise par les autorités mercredi. L'armée centrafricaine et la MINUSCA sont dans Bakouma depuis hier matin, a indiqué à l'AFP Pierrette Benguéré, la préfète de Mbomou, la région de Bakouma. Madame Benguéré a ajouté que le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, l'un des principaux groupes armés issus de l'ex-rébellion de la Seleka qui avait pris Bangui en 2013, a quitté la ville. Au Kenya, les forces de sécurité ont repris jeudi une fouille minutieuse du complexe hôtelier attaqué par un commando de 5 islamistes radicaux qui a tué 21 personnes. L'attaque a pris fin mercredi matin après un siège de près de 20 heures avec la mort des deux derniers assaillants retranchés dans un des bâtiments du complexe regroupant un hôtel, des restaurants et des bureaux. Les islamistes somaliens Shebab affiliés à Al-Qaïda qui ont revendiqué l'attaque ont indiqué mercredi avoir agi en représailles au transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Le groupe affirme que ses combattants ont suivi les instructions du chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, de s'en prendre à des intérêts occidentaux. Au Soudan, les organisateurs des manifestations contre le pouvoir ont appelé leurs concitoyens à une semaine de soulèvement et à marcher à nouveau ce jeudi vers le palais présidentiel à Khartoum. Déclenchées il y a un mois, les manifestations contre la hausse du prix du pain se sont transformées en rassemblement quotidien appelant Omar el-Béchir à partir, une demande catégoriquement rejetée par un président au pouvoir depuis trois décennies. 24 personnes sont mortes depuis le début du mouvement le 19 décembre, d'après un bilan officiel. Les ONG Human Rights Watch et Amnesty International évoquent, elles, au moins 40 morts, parmi lesquels des enfants et du personnel médical. La Cour pénale internationale, la CPI, a suspendu hier soir la remise en liberté de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo après un nouvel appel déposé par le procureur et ce au lendemain de son acquittement retentissant. La plupart des tentatives de la CPI de juger des personnalités politiques de haut rang, presque toutes en Afrique, se sont terminées par des échecs ou des acquittements. C'est notamment le cas pour l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba en juin 2018 et maintenant l'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Faut-il douter de l'efficacité de la CPI? Eric Manirakiza, adjoint à Ouagadougou, l'analyse politique Ismaël Diallo.
L'interrogation a une réponse claire. Ce sont non pas son inefficacité, mais son échec double, échec cuisant. Et c'est à se demander franchement pourquoi cet instrument existe. Et s'il n'existait que pour les Africains, et même si c'était que pour les Africains, ceux dont beaucoup se défendent, il prouve néanmoins qu'il n'est pas compétent, qu'il n'est pas capable de faire correctement son travail. Mais en réalité, ce n'est pas une question de compétence. Pire que cela.
Pour vous, est-ce du prêt-à-porter politico-judiciaire?
C'est un instrument politique. Contre ce que la France et l'Europe ne veulent pas, les Africains que la France et l'Europe ne veulent pas voir aux affaires et au bénéfice des suppôts de ces forces, y compris des complicités africaines. Et c'est ce qui s'est passé ensuite avec Kadhafi. Il y a un minimum de justice qu'il faut à tous les échelons. Dans ce cas particulier de Gbagbo, il n'y a pas eu de justice en vérité. Il y a eu une opération militaire dirigée par la France contre Laurent Gbagbo. Il y a eu un enlèvement par les troupes françaises de Laurent Gbagbo. Il y a eu un emprisonnement et il y a eu un enlèvement et un transplantement forcé de Laurent Gbagbo à la CPI. On peut entourer cela de toutes les facettes que l'on veut. La réalité est que c'était la politique du plus fort, c'est-à-dire la politique de la France avec Alassane Ouattara et d'autres.
Problème d'efficacité, mais peut-être une juridiction nécessaire.
Je ne sais pas si c'est une juridiction nécessaire. Nous, Africains, avons prouvé que si nous voulons, nous pouvons faire justice. le cas Issenabré, les cas pendants ou qui ne sont pas encore à l'ordre du jour, ne le sont pas simplement parce que nous n'avons pas encore décidé d'en faire quelque chose, comme le cas de Yaya Jammeh de la Gambie. Le jour où la CEDEAO décidera de traîner en justice, il sera traîné en justice, que son protecteur de la Guinée équatoriale le veuille ou non.
Est-ce que ces échecs ne relèvent pas de la faiblesse de l'accusation?
Je ne pense pas que la faute soit à la procureure elle seule, c'est vraiment tout le système.
Le fait que les juges peuvent dire le droit, ça montre que c'est quand même une juridiction indépendante.
Elle est peut-être indépendante pour les faibles, mais elle n'est pas pour les puissants. Il ne faut pas se faire d'illusions. Le monde de la puissance, c'est le monde de l'argent, c'est le monde d'influence. C'est un jeu d'échecs.
L'analyste politique Ismaël Diallo, depuis Ouagadougou. Le chef par intérim de l'ex-rébellion mozambicaine, devenu opposition, Renamo Osufo Momad, a été confirmé au poste de président de son parti à l'issue de son congrès, a-t-on appris aujourd'hui, auprès d'un délégué du mouvement. Il succède officiellement au chef historique de la Renamo, Afonso Dhlakama, décédé brutalement en mai 2018.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Une grève générale inédite touchant tous les services publics a débuté aujourd'hui en Tunisie à l'appel de la puissante centrale syndicale UGTT qui réclame des augmentations de salaires dans un contexte politique tendu en ce début d'année électorale. À travers le pays, les écoles publiques étaient fermées, les transports en commun paralysés, les vols de la compagnie aérienne nationale tunisienne perturbés. Le syndicat réclame des augmentations de salaires plus importantes que les 70 dinars 20 euros pour 2019 et 110 dinars 30 euros pour 2020 proposés par le gouvernement, soulignant la baisse du pouvoir d'achat due à l'inflation qui a atteint 7,5% en 2018. En Libye, au moins 5 personnes ont été tuées et 20 autres blessées dans de nouveaux combats des milices rivales au sud de Tripoli, malgré un accord de cessez-le-feu conclu en septembre. Bagasekura.
Le ministère libyen de la Santé ne précise pas si des civils figurent parmi les victimes. Selon des témoins, des tirs intermittents ont été entendus hier soir au sud de Tripoli, la capitale, et des routes ont été fermées à la circulation. La mission de l'ONU en Libye a condamné fermement la récente mobilisation militaire, indiquant qu'elle surveillait la situation de près. La MINUL met en garde les parties contre toute violation de l'accord de cessez-le-feu conclu les 4 et 9 septembre 2018 qui compromettrait la stabilité de la capitale et, plus important encore, mettrait en danger la vie des civils et de leurs biens. Entre fin août et début septembre, des combats entre les groupes armés ont fait au moins 117 morts et plus de 400 blessés. Un accord de cessez-le-feu a été conclu sous l'égide de l'ONU. Par ailleurs, l'armée dirigée par Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, a annoncé avoir lancé hier une opération militaire pour, selon elle, purger le sud des groupes terroristes et criminels autour de la ville de Seba, à 651 km au sud de Tripoli.
Pour la deuxième journée consécutive, des représentants du gouvernement yéménite et des rebelles houthis discutent aujourd'hui à Amman de l'application d'un accord sur un échange de milliers de prisonniers, a indiqué un responsable des Nations Unies. Selon cette source, la rencontre entamée mercredi dans la capitale jordanienne porte sur la mise en œuvre d'un accord conclu juste avant les pourparlers de paix qui se sont tenus en décembre en Suède. La réunion de jeudi se tient dans un grand hôtel d'Amman en présence de représentants des Nations Unies et du Comité international de la Croix-Rouge. Le vice-premier ministre chinois Liu He, négociateur en chef sur les différends commerciaux avec les États-Unis, se rendra à Washington les 30 et 31 janvier pour des discussions bilatérales, a annoncé jeudi le ministère chinois du Commerce. Il rencontrera des responsables américains afin de contenir les frictions commerciales et d'appliquer le consensus obtenu par les présidents Xi Jinping et Donald Trump lors de leur rencontre le 1er décembre dernier, a indiqué à la presse Gao Feng, le porte-parole du ministère chinois du Commerce. Et puis un très haut responsable nord-coréen est arrivé jeudi, c'est aujourd'hui donc, à Pékin, en route pour Washington, où il s'entretiendra avec le secrétaire d'État Mike Pompeo. Ce voyage intervient au moment où semble se préparer, probablement en Thaïlande ou au Vietnam, un second sommet entre M. Trump et Kim, en dépit de l'absence de progrès dans les négociations sur la dénucléarisation. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque pour un nouveau journal.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.